le présenter. Restez sur VOA Afrique.
Bonsoir à tous. Merci de votre fidélité à VOA Afrique. Nous sommes lundi et comme vous le savez, c'est le rendez-vous du sport. Sur le sport, sur la voie de l'Amérique. Bienvenue à tous sur Suisse pour Rama. Au micro, Élisée Mbati. On va évidemment parler de la dernière réunion de l'année de la CAF qui s'est tenue au Caire. De nombreuses décisions ont été prises, notamment le statut du président d'honneur de la CAF accordé à Issa Hayatou, éminente personnalité du football africain pour l'ensemble de son œuvre. On va d'abord saluer nos consultants, Lawal Dibi Kosoro, qui est avec moi dans ce studio. Bonsoir Lawal.
Bonsoir Élisée, bonsoir aux auditeurs de VOA Afrique.
Amine Birouk est en direct depuis Casablanca au Maroc. Bonsoir Amine.
Bonsoir Élisée, bonsoir à tous.
Amédine Sy est avec nous depuis Columbus dans l'Ohio. Bonsoir Amédine.
Bonsoir Élisée, bonsoir à tous les auditeurs de la VOA Afrique.
Et puis, en direct de Kinshasa, Valdo Simoyamba, qui nous a fait le plaisir d'être avec nous ce soir. Bonsoir Valdo.
Bonsoir Élisée, bonsoir à tous les auditeurs de la VOA Afrique.
Sporama ce soir, c'est aussi le tournoi qualificatif pour la CAN des moins de 20 ans Mauritanie 2021. Les affiches des demi-finales de la zone B UFOA sont connues. Bienvenue à tous. On connaît désormais les affiches des demi-finales du tournoi qualificatif de la CAN des moins de 20 ans de la zone B de l'UFOA qui se déroule actuellement à Porto-Novo au Bénin. À l'issue des matchs de poule, le Niger, premier du groupe A, affrontera demain mardi le Ghana, deuxième du groupe B. Et puis, la Côte d'Ivoire, qui a fini en tête du groupe B, croisera le Burkina Faso, second du groupe A, Lawal. De belles confrontations en perspective.
Oui, de belles confrontations en perspective parce que les meilleures équipes ont pu donc sortir leur épingle du jeu. Mais grosse déception pour les Béninois qui s'étaient relancés avec leur victoire entre-temps, mais qui ont fini par
sombrer.
Il fallait le dire, c'était un tournoi mal préparé par les Béninois. C'est pas parce qu'on reçoit à domicile qu'il faut croire qu'on peut déjà se qualifier. C'est une grosse déception pour les amateurs de foot au Bénin. Dans ces conditions, je crois qu'on doit faire un balayage systématique de beaucoup de choses, mais comme on connaît les gens dans la gestion du foot, ils vont peut-être pas prendre les bonnes décisions au moment opportun.
Exécutif de la CAF s'est réuni au Caire pour sa réunion de fin d'année. Lawal, d'entrée, la CAF a choisi enfin son président d'honneur, en l'occurrence Issa Hayatou. C'est un mérite pour le Camerounais.
Oui, c'est un mérite pour toute l'œuvre qu'il a pu faire à la tête de la fédération, mais pour moi, j'aurais aimé, c'est mon point de vue, et il est personnel, j'aurais aimé qu'on choisisse quelqu'un d'autre comme personnalité. Ce n'est pas des personnalités ayant marqué le foot africain qui manquent. Et quand on connaît ça, il y a tout par rapport à ce qu'il a été, par rapport à sa gestion et par rapport à ce grief, je vais le dire comme ça, entre Ahmad Ahmad et lui, parce que Ahmad Ahmad a été celui qui a réussi à déloger Issa Hayatou.
Voilà.
Et on le déloge et aujourd'hui Ahmad Ahmad est en conflit avec l'éthique au niveau de la FIFA. Et c'est au moment où Ahmad Ahmad a des difficultés qu'on le choisit comme personnalité d'honneur de la CAF. À sa place, j'aurais carrément refusé l'offre. Pour moi, c'est un cadeau presque empoisonné pour Issa Hayatou. Mais comme on est dans le monde du foot et que les passions se déchaînent et que les coalitions, les alliances peuvent parfois être de contre-nature, c'est peut-être ça qui vaut aujourd'hui au niveau de la CAF. Ahmad Ahmad étant déjà hors circuit pour lui marquer peut-être le coup, pour enfoncer davantage le clou dans son crâne, il faut appeler celui qui l'a et déloger personnalité. À sa place, j'aurais carrément décliné l'offre, tout simplement.
Amine, le comité a approuvé des réformes majeures visant à mieux combattre la corruption et la mauvaise gouvernance. On s'y attendait, vu les problèmes rencontrés par la FETIE récemment avec l'affaire d'Ahmad Ahmad.
C'est le bon sens qui a prévalu lors de ce comité exécutif de la CAF réuni au Caire. Cette réunion de fin d'année a servi à mettre une feuille de route à mettre en place cette feuille de route de façon à pouvoir combattre la corruption et surtout à éviter tous les problèmes de mauvaise gouvernance rencontrés lors de la période Ahmed Ahmed. On se rappelle de la mise sous tutelle de la CAF pendant 6 mois par Fatma Samoura, des coups de semonce de la FIFA et de son président Gianni Infantino. La Confédération africaine de football doit franchir un gap et doit surtout procéder à une rupture avec l'ancien régime. Cette feuille de route, ces éléments de bonne gouvernance sont censés mettre à flot le football africain, surtout lui permettre de franchir une étape. C'est une nécessité absolue, il faut épouser son temps et il faut surtout refaire une virginité nouvelle à la Confédération africaine de football.
Valdo, dans cette dynamique, le comité a informé de ce qu'un code d'éthique est en cours d'étude au sein de la commission spécialisée. C'est un acte fort.
Élisée, je veux bien que ce soit un acte fort, mais nous savons tous que le problème, ce n'est pas au niveau des textes qu'on peut bien élaborer et faire appliquer, c'est plutôt l'homme, sa façon de concevoir et de la manière dont il lui arrive d'interpréter certaines choses. Vous n'allez quand même pas me dire que depuis tout ce temps, la mauvaise gouvernance a élu domicile la CAF et que c'est maintenant qu'elle vient d'être détectée et là, on veut trouver des voies et moyens pour en finir. Je ne crois pas. Combattre la corruption, ce n'est pas nouveau. Ça, vous n'allez pas interdire aux corrupteurs de tenter son coup afin d'atteindre ses objectifs. Quand on sait que souvent ces révélations se découvrent longtemps après que ces derniers soient déjà consommés, il faudra à la commission d'étudier aussi la possibilité des sanctions à l'endroit du corrupteur, parce que trop c'est trop, le temps est venu, si corruption il y a, outre le corrompu, le corrupteur aussi doit subir la rigueur de la loi.
Amédine, le président intérimaire Constant Omari et ses collaborateurs veulent aussi protéger l'intégrité du jeu, ainsi que plusieurs mesures en réponse à la crise sanitaire liée au coronavirus.
Tout à fait, Élisée, le président par intérim Constant Omari est dans son rôle. Hein. C'est vrai qu'il n'est qu'un intérimaire, mais pour l'instant, c'est le patron moral de la Confédération africaine de football et je pense qu'il a bien fait car il faut à tout prix protéger l'intégrité du jeu. Concernant aussi les mesures sanitaires liées au coronavirus, c'est un rappel, Élisée, hein, car la Confédération africaine de football avait déjà annoncé la couleur, c'est-à-dire le respect des mesures barrières, en tout cas pour sa première sortie. Constance Omari a marqué les esprits et je pense que c'est une très bonne chose. Un bon responsable, il a pris les devants, il a pris, comme on dit, les taureaux par les cornes.
Amine, il était question d'une nouvelle procédure d'octroi de licence, d'ouverture des candidatures pour accomplir les prochaines compétitions, surtout des clubs et enfin de la Supercoupe de la CAF.
C'est un nouveau cahier de charge avec une procédure d'octroi de licence. Ça permettra de rehausser le niveau de ces candidatures. Aujourd'hui, le football africain a besoin de garanties au niveau des stades censés accueillir les prochaines compétitions des clubs et surtout la Supercoupe d'Afrique. Comme vous le savez tous d'ailleurs, cette compétition a été octroyée à la Fédération Qatari via un contrat de 3 années. On a eu des balbutiements, des tergiversations de la part de la Confédération africaine de football qui souhaitait que la prochaine édition et la confrontation entre l'Ali et l'équipe de la Renaissance de Berkane puisse avoir lieu au Caire. Il y a eu une pression du lobby égyptien et visiblement, les Qataris ont tenu bon parce qu'il y a un contrat qui a été signé en bonne et due forme et ce sont des choses qu'il faut respecter. Cet engagement sera tenu par la Confédération africaine de football. Il faudra maintenant voir dans quelle mesure il aura lieu dans les prochaines semaines. En attendant cela, la CAF est obligée de revoir de fond en comble ce système d'octroi de licence et de candidature.
Valdo, par rapport au CHAN 2021, la CAF a pris connaissance du rapport de la dernière visite d'inspection des infrastructures qui s'est déroulée en octobre dernier au Cameroun. L'instance qui gère le foot africain note avec satisfaction que le pays hôte est prêt à accueillir l'événement. Enfin, un ouf de soulagement.
Élisée, il était temps qu'il en soit ainsi parce que ce feuilleton a trop duré et je pense que ce serait la dernière avec cette façon de faire de la CAF. C'est un véritable ouf du soulagement et c'est une garantie pour la CAF d'en finir avec les inquiétudes au sujet de cette compétition au Cameroun. Cette nouvelle tombe au moment où le football et Covid-19 semble bien trouver un rythme pour cheminer ensemble de gestes et barrières interposées. Je pense que cette nouvelle permet à la CAF, sous la gestion des Constant Marie, de se pencher maintenant sur autre chose telle que la gestion de la compétition en présence de la Covid-19. Comment vont-ils s'y prendre? Parce que ça sera une première depuis l'avènement Covid qu'une telle compétition ait lieu dans un pays pendant au moins 3 semaines. Il y a donc lieu de s'y pencher minutieusement. Ça sera un test grandeur nature avant la CAN 2022 pour les Camerounais.
Amine, suite aux mesures sanitaires, la CAF a recommandé au gouvernement camerounais d'augmenter le nombre d'hôtels chargés d'accueillir les délégations pendant la compétition.
L'élève Cameroun a finalement réussi son examen à la 3e session. Et finalement, les installations et infrastructures, notamment les stades, sont prêts. C'est déjà une bonne chose et cela servira certainement pour l'organisation du prochain CHAN dans quelques semaines. Il faut peut-être remettre à niveau les infrastructures hôtelières. Et il faudra accueillir 16 de sélection. Et qui dit 16 sélections, dit 16 hôtels répondant aux standards de la Confédération africaine de football. Il est vrai que certains pays ont placé la barre très haut, notamment l'Égypte lors de la dernière CAN. Il va falloir que le Cameroun puisse répondre de manière satisfaisante aux desiderata de la Confédération africaine de football. C'est un peu le seul hic en ce moment dans ce dossier, mais ça devrait certainement s'arranger dans les prochains jours.
Amédine, que d'exigences à un mois du démarrage de cette compétition?
Oui, Élisée, il y a beaucoup d'exigences à un mois du démarrage du CHAN, mais je trouve ça normal car l'organisation de cette compétition sera sans aucun doute un test grandeur nature pour le Cameroun qui n'a plus droit à l'erreur, comme vous le savez, car le Cameroun doit non seulement avoir des infrastructures sportives au top, mais le nombre d'hôtels chargés d'accueillir les délégations doit augmenter, car avec le Covid-19, il faut prendre toutes les dispositions pour respecter les mesures barrières. Élisée, c'est vrai que ce ne sera pas facile, mais je pense que le jeu en vaut la chandelle. Élisée.
Lawal, le Cameroun a désormais un grand défi à relever.
Bon, vous avez parlé d'ouf de soulagement pour les Camerounais. Oui, c'est un ouf de soulagement parce qu'au moins aujourd'hui, la CAF a certifié la mise aux normes des infrastructures et tout le reste. Mais le plus gros, c'est le défi sanitaire, le défi logistique qu'il faut régler. Et la CAF, si la CAF ne s'y met pas, le Cameroun va également rater ce défi-là. On ne le souhaite pas. Parce que quand aujourd'hui, on se voit un peu comment s'organisent les compétitions en Afrique avec... on a demandé d'augmenter les hôtels. C'est pas en un mois, moins d'un mois, qu'on va augmenter la capacité hôtelière du Cameroun. C'est ce qui existe.
Sera une seule personne par chambre.
C'est sur ça on va donc se baser. Et quand on va vouloir accueillir toutes les délégations au même moment, je crois que la CAF n'a pas anticipé un certain nombre de choses. Mais le coronavirus est venu chambouler et tout. Et comme l'a dit le président de la Fédération sénégalaise de foot, on risque d'avoir carrément un sport mort. Si la CAF veut véritablement réussir ce CHAN, il faut qu'elle s'associe à l'équipe dirigeante camerounaise pour véritablement relever le défi.
La prochaine réunion du comité exécutif se tiendra le 15 janvier 2020 à Yaoundé, veille du match d'ouverture du CHAN au Cameroun. Avant cette réunion, la CAF a fait le bilan du premier tour préliminaire de cette compétition des clubs. Au total, pour la Ligue des Champions, 38 matchs se sont déroulés, notamment sur les 44 programmés, alors que la Coupe de la Confédération, 34 matchs ont eu lieu sur les 38 prévus. Une bonne tenue pour l'essentiel, en dépit de quelques événements pour lesquels des décisions ont été prises, notamment la disqualification du FC Nouadhibou. À Médine, le club mauritanien perd le nombre minimum de joueurs requis pour un match en raison des cas positifs au coronavirus en son sein. Il n'a pas pu jouer son match retour à Accra contre les Ghanéens d'Asante Kotoko de Kumasi.
Oui, Élisée, je pense que dans l'ensemble, le bilan du premier tour préliminaire est positif, hein, car sur 38 sur 44 matchs de Ligue des Champions ont été joués, 34 sur 38 en Coupe de la CAF. C'est vraiment bien, hein? Mais concernant le cas du FC Nouadhibou, c'est vraiment regrettable, Élisée, car je pense que la CAF doit être indulgente envers certains clubs, car le club de la Mauritanie a effectué le déplacement sur Accra. C'est vrai qu'ils ont eu des cas de coronavirus, mais je pense que le règlement est très sévère, car il est calqué sur celui de l'UEFA. Et comme vous le savez, les réalités ne sont pas les mêmes, car il faut avoir 11 joueurs, dont un gardien de but. C'est un peu difficile en Afrique, surtout si on sait que les déplacements sont extrêmement difficiles. Disqualifier une équipe à la veille qui s'est déplacée jusque dans un pays comme le Ghana pour jouer, alors qu'il y avait des cas de virus, je pense que c'est très sévère. La CAF doit revoir le règlement. Élisée.
Amin Birouk, les Éthiopiens de Mekele et les Gambiens de Kamtel ont subi le même sort, mais pas pour les mêmes raisons.
Hormis ce cas de la disqualification du FC Nouadhibou et des matchs des Éthiopiens de Mekele et des Gambiens de Gamtel qui n'ont pu se déplacer à Casablanca, on a eu très peu de rencontres qui n'ont pu avoir lieu. Autant dire que le protocole sanitaire mis en place par la Confédération africaine de football a tenu la route. Il va falloir maintenant garder le cap pour le premier tour des compétitions africaines, que ce soit la Champions League ou la Coupe de la CAF, et augmenter ces statistiques. Il faut que les clubs soient quasiment en concentration fermée, qu'ils puissent passer les tests PCR, les tests sanguins également s'il le faut, de façon à éviter toute mésaventure, toute mauvaise surprise. Et surtout, je pense que le football africain est tenu de respecter les engagements. Quand un club s'inscrit pour disputer une compétition africaine, il ne peut plus déclarer forfait à la dernière minute, ce qui souvent occasionne des désagréments pour le club qui le reçoit, parce qu'il a engagé des frais en termes de location de stade, de location d'hôtel, d'infrastructure. Autant dire qu'il va falloir qu'on arrive à l'âge adulte et que le football africain puisse enfin passer définitivement ce cap.
Lawal, pour le match mondial d'Alger, Bifle Dubangou, selon les infos, la commission d'organisation des compétitions interclub va faire jouer cette rencontre après avoir consolidé tous les détails et surtout échangé avec la division voyage de la CAF. On rappelle que le club béninois avait évoqué des difficultés à voyager pour manque de vol vers l'Algérie.
Aujourd'hui, il est important qu'on soit moins amateur, qu'on se professionnalise dans tout ce qu'on fait. Vous n'allez pas entendre pour l'UEFA, par exemple, un tel cas de non-déplacement d'équipe parce qu'il n'y a pas de vol. Hein. Non, on a fait des vols spéciaux. Et les Béninois auraient pu faire comme ils ont fait pour l'équipe nationale, affréter un vol spécial pour les buffles. Ça se pouvait. Maintenant que le mal est fait, la commission a demandé à ce qu'on rejoue le match. C'est à eux de voir. Mais il est important de rappeler qu'il y a trop d'amateurisme au niveau de la gestion des compétitions de clubs au niveau par rapport à la CAF. Et il faut qu'on se sache avec. Quand, par exemple, on disqualifie le club mauritanien, les joueurs n'ont pas demandé à être contaminés par le Covid-19. Non.
Voilà.
Ils n'ont pas demandé à être contaminés. Voilà, on les disqualifie parce qu'il n'y a pas le nombre de joueurs requis. Mais s'il y a un effectif de 21 ou 22 joueurs et que dans mon effectif, je suis décimé 9 cas de Covid-19, j'ai des problèmes avec. Donc, il y a qu'on doit pouvoir. Le fond du problème, ils n'ont pas touché le fond. Ils n'ont pas touché le fond et on vient dire, on disqualifie une équipe, c'est bon. On disqualifie l'équipe. Mais il faut voir si un jour, on ne le souhaite pas, si c'est le TP Mazembe par exemple qui a ce même problème, si c'est comme le Zamalek, à la Ligue du Caire, si c'est eux qui avaient ce problème, est-ce qu'on va agir de cette façon? Il faut qu'on se pose des questions.
Gros point d'interrogation.
Donc, Élisée, il est important que les gens cessent de faire comme deux poids, deux mesures au niveau de la CAF et qu'on gère les choses de façon assez professionnelle.
Justement, Valdo, cette pandémie de coronavirus est devenue un prétexte pour des clubs qui ont manqué leur déplacement et une manipulation pour d'autres, vu comment le match à Santi Kotoko de Koumassi, FC Mouadibou, a été géré.
Élisée, je veux bien que ça soit jugé des prétextes, mais il faudra toutefois avoir les maximums de garanties pour en arriver à cette décision de disqualification. Prenons le cas que c'est un faux fouillant, que ce n'était qu'un réseau avancé pour ne pas jouer son match, simple disqualification. Je pense que ce club n'aura pas mieux appris de son initiative malveillante, c'est de la triche. c'est des cas comme ça qui doivent faire évoluer les textes pour mieux sanctionner. L'autre option, c'est la présence prouvée des joueurs atteints de la pandémie. L'option a été déjà levée depuis les éliminatoires de la CAN que Covid-19 ne pouvait pas faire reprogrammer des matchs. Conséquence de la demi-finale, retour de la Ligue des Champions de la CAF entre Zamalek et Raja qui avait tiré en longueur parce qu'il y avait des cas de Covid-19 qui étaient signalés. Donc le club qui prenne part à ces deux compétitions s'est tenu à mieux gérer leurs effectifs pour que pareil cas ne survienne plus. Ainsi, laisser que tout se décide sur terrain en 90 minutes d'étendue.
Vous le savez, le match Paris Saint-Germain-Istanbul-Basaksehir de la Ligue des Champions a été interrompu pour des accusations de racisme visant un arbitre. Tout commence lorsque Achille Webo, assistant camerounais de l'entraîneur turc Okan Buruk, conteste une décision de l'arbitre. Il entend alors le roumain Sébastien Coltechcu, quatrième arbitre, le désigner comme le noir, négrou en roumain, juste avant que ce dernier ne lui inflige un carton rouge. Ahmedine, c'est inacceptable qu'il se passe encore des choses comme cela en 2020, qu'on ait encore ce genre de problème.
Tout à fait, Élisée, ce qui s'est passé lors du match PSG-Basaksehir est inacceptable, incompréhensible et inadmissible. Mais comme le dit l'adage, à quelque chose de malheur est bon, car le comportement des joueurs des deux équipes a été tout simplement exemplaire, car grâce à eux, le match a été non seulement décalé de 24 heures, mais l'arbitre qui s'est illustré de la plus mauvaise des façons a été sanctionné car il n'a pas officié. Je pense que c'est déjà bon, Élisée. Mais je voudrais vraiment saluer l'attitude de Dembaba. Par sa bravoure, pour moi, il vient de remporter la Ligue des Champions de l'héroïne et de la tolérance, Élisée.
Amine Birouk, c'est un épisode inédit à ce niveau dans le football.
Il y aura certainement un avant et un après Paris Saint-Germain, Istanbul, Basaksehir. On pouvait s'attendre à des actes de racisme de la part de supporters, d'extrême droite souvent, en Europe. Mais depuis qu'on est passé au huis clos, on devait certainement être satisfait de la teneur des événements parce qu'il n'y avait pas d'actes de racisme. Mais aujourd'hui, ces actes se sont déplacés, ce ne sont plus des supporters, mais des arbitres. On accordera peut-être, s'il le faut, le bénéfice du doute à Sébastien Coltechcu par rapport à la langue qu'il a utilisée, mais ne valait-il pas mieux parler de l'entraîneur assistant Achille Webo? Ne valait-il pas mieux également le désigner par sa fonction, si jamais il y a, je dirais, malentendu? Mais autant dire aujourd'hui, saluons la solidarité des joueurs du Paris Saint-Germain, notamment Neymar et Mbappé. Saluons également le rôle de militant qui a été tenu par Dembaba. C'est bon signe et ça suppose que la famille du football est saine, qu'il y a un esprit extraordinaire de solidarité qu'il va falloir maintenir lors des prochaines confrontations pour éviter tout désagrément de ce genre.
Laval, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le foot.
Oui, Élisée, c'est juste une honte pour le foot.
Vraiment une honte.
Oui, malgré tout ce qu'on a proféré, tout ce qu'on a dit, qui se trouve des énergumènes, fût-il à arbitre pour plomber tout ce qui est fait. C'est regrettable et la FIFA
on attend
doit pouvoir...
la décision de l'UEFA.
Non, l'UEFA doit pouvoir sanctionner à vie cet arbitre-là. Il n'a plus jamais à mettre les pieds. Si j'étais à la place de l'UEFA, mettre les pieds sur une pelouse.
Ça, je dis, on attend la décision.
Oui, donc, non, c'est juste simplement honteux qu'il y ait encore des gens qui n'ont pas compris qu'on est au 21e siècle, qui se croient encore au temps préhistorique et qui croient qu'ils ont tous les pouvoirs sur tout le monde. Mais ce que j'ai admiré, c'est la solidarité des joueurs parisiens, même turcs, et le match qui a été rejoué. Vous voyez comment ils sont venus sur le terrain avec un genou à terre. Quand on voit un peu au niveau du foot, tout ce que les négros ont fait pour donner de la valeur au football, on ne peut pas le citer. Quand on prend les grands de ce monde, Eusebio, quand on prend Pelé, l'un des plus grands joueurs de ce monde, quand on les prend...
Le plus grand.
Et aujourd'hui, que lui, un simple arbitre, un quatrième arbitre qui vienne dire ces choses-là, je pense qu'on a intérêt à le virer, du système du foot pour faire de la place à des gens qui ont quand même la cervelle pour comprendre que aucune race n'est au-dessus de l'autre.
C'est vraiment déplorable. Merci Laval.
Merci Élisée.
Sporama, c'est fini. Merci de l'avoir suivi. On se donne rendez-vous pour un autre numéro.